auditeurs et auditrices de Radio Ndeke Luka, soyez les bienvenus dans votre émission Patara, un espace dédié aux questions politiques en Centrafrique. Cette semaine, nous abordons les questions liées aux remous sociaux nés de la dernière intégration et leurs conséquences sur l'éducation. La volonté du gouvernement de résorber le chômage en Centrafrique a permis d'intégrer dans la fonction publique plusieurs jeunes. Si l'acte est louable, il ne fait pas que des heureux, surtout au ministère de l'Éducation. Les professeurs vacataires notent un dysfonctionnement et dénoncent un arrêté muet intégrant des personnalités sans respecter l'ordre promotionnel. Par conséquent, ils observent une grève pour exiger du gouvernement la transparence. Dans un élan de solidarité, les élèves sont sortis de leur classe pour exiger du gouvernement le droit à l'éducation. La réaction de la police a été répressive. Dans la foulée, les enseignants du Fondamental 1 ont investi le building administratif pour réclamer eux aussi leur intégration. La classe politique n'est pas indifférente de la situation. L'opposition démocratique condamne l'usage de la force contre les élèves et fustige la gestion de ce dossier. Le président de l'Assemblée nationale, El Hadj Moussa Laurent Gonbaba, lors de la rentrée parlementaire, déplore l'absence de la transparence dans ce dossier. Problème, la grogne des enseignants vacataires n'est pas sans conséquence sur le volume horaire. La qualité de l'enseignement à seulement 3 mois des élections de fin d'année. Question, qu'est-ce qui peut expliquer ces remous? Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, élu sur le postulat de la rupture d'une part et la primature en ravissant la vedette au ministère de la fonction publique d'autre part, ont-ils su gagner le pari? Existe-t-il l'arrêté muet? Cette situation ne consacre-t-elle pas, in fine, la formation au rabais? Sur quels critères ces enseignants ont-ils été intégrés? Plusieurs questions autour desquelles nous essayons de comprendre dans ce débat dont je me fais le devoir de vous présenter le décor du plateau. Nous avons M. Ernest Misedio, député URCA de Obo et membre de la commission éducation à l'Assemblée nationale. M. Ernest Misedio, bonjour.
Bonjour Jean-Fernand.
Ernest appelle un autre Ernest. Nous avons aussi M. Ernest Mada, ci-devant directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Il est aussi cadre du MCU. M. Ernest Mada, bonjour.
Bonjour.
Nous recevons M. Karl Blaguet, sociologue et observateur de la vie politique. M. Karl Blaguet, bonjour.
Bonjour M. Kouina.
Autour du plateau, nous avons M. Alain Loumandé, secrétaire général de la Fédération nationale de l'Association des parents d'élèves. M. Alain Loumandé, bonjour.
Bonjour.
Pour animer cette émission, je suis Jean-Fernand Kouina. Je bénéficie de l'appui technique de Diane Stéphanie Bokoula. Patara, c'est maintenant, mais en attendant, une transition.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Ouvrons ce débat avec vous, M. Ernest Mada. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer ce remous qui entraîne les professeurs vacataires à abandonner les classes?
Merci beaucoup. Je pense que la question que nous abordons aujourd'hui est suffisamment sérieuse, puisqu'elle se rapporte à l'éducation de nos enfants et donc à la formation du capital humain qui préoccupe sérieusement le gouvernement que dirige le Premier ministre sous l'impulsion de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. À ce titre, il convient donc d'aborder ce sujet avec sérieux, c'est-à-dire avec méthode et avec pédagogie. Concerne d'abord les enseignants vacataires qui se sont mis en grève pour réclamer une intégration de masse dans la fonction publique. Il faut signaler que l'essentiel de leurs revendications se cristallise donc autour de cette intention de vouloir être intégré massivement dans la fonction publique. Le 4 mars dernier, alors que la première s'est déclenchée le 10 février dernier, ce qui fait environ un mois de crise à différents niveaux. Mais je pense qu'il faut éviter de faire beaucoup de spéculations, beaucoup d'exagérations autour de cette crise. J'entends ici parler d'arrêté muet. J'entends également parler de non-respect de l'ordre promotionnel. J'entends également parler des dérives écolières, faisant allusion à la sortie de quelques élèves dans la rue. J'entends parler ici d'une répression policière. J'entends également parler de gens qui auraient investi le building administratif qui est le cœur de l'administration de notre pays. J'entends également parler ici de l'opposition qui serait en train de faire des critiques sévères.
Mais vous conviendrez avec moi que ce sont des faits.
Il ne faut pas profiter de cette occasion pour faire de la propagande.
Nous ne sommes pas en période de propagande. Nous parlons d'un sujet suffisamment préoccupant, suffisamment sérieux, et il faut l'aborder avec sérieux. Et je m'en vais vous dire, suite à cette crise, nous avons eu à obtenir beaucoup de discussions avec les enseignants.
Mais le si gouvernement vous discutez avec les enseignants, il y a un problème
le gouvernement,
pour lequel vous discutez avec les enseignants.
Nous n'occultons pas les problèmes qui ont été posés, mais je dis qu'il ne faut pas en faire une exagération. Je précise que le gouvernement s'est activé face à cette crise. Les enseignants vacataires ont été reçus deux fois par Son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'Éducation nationale. Ils ont également été reçus par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ils ont également été reçus par le chef du législatif. L'honorable président de l'Assemblée nationale, les autorités de notre pays, relevant de l'exécutif, ont eu à appeler ces enseignants à la reprise des activités pédagogiques. Je sais également que, in fine, ces enseignants ont accepté d'intégrer le cadre permanent de concertation et de négociation au niveau du ministère de la fonction publique. Et une première concertation... un premier tour de table s'est déjà déroulé le mardi dernier et à cette occasion, nous nous attendons à des discussions, à des échanges, à des négociations plus élaborées qui, on l'espère, devront très certainement contribuer au dénouement de la crise. Mais à propos des enseignants contractuels, ces enseignants ont été reçus, y compris par moi-même, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Si vous faites allusion, si vous dites que la police a eu affaire de la répression, moi je dis le contraire. Je sais que il y a eu, le 4 mars dernier, des élèves qui étaient sortis brusquement de salle de classe. Nous n'attaquons pas directement les enseignants, mais les enseignants devraient servir vraisemblablement à instruire ce dossier pour savoir s'il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient tenter à la perturbation de l'ordre public. C'est dans ce cadre, donc, que la police a eu à interpeller quelques enseignants, mais juste pour des besoins d'enquête. Et je tiens à préciser que ces enseignants sont déjà libres depuis hier.
Okay, nous
voilà
comprenons
ce que je peux dire en propos liminaires par rapport à vos propres propos qui méritent davantage de précision et j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir.
C'est le rôle de ce débat, nous aurons tout le temps de revenir là-dessus. Monsieur l'honorable Ernest Misedio, à la lecture de ce qui se passe, quelle est votre lecture de la situation?
Je vous remercie Jean-Fernand. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le DIRCAP. Et le sentiment que j'ai, c'est que le DIRCAP sous-estime un peu l'ampleur de la situation. Une situation qui dégénère aujourd'hui, mais elle aurait pu dégénérer beaucoup plus tôt. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui à l'éducation nationale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je pense que si les gens ont essayé de comprendre, c'est parce que le régime actuel a accédé au pouvoir dans un contexte particulièrement difficile. C'est pour ça que les gens ont essayé de comprendre. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que 4 ans après l'accession au pouvoir du président Touadéra, que nous en soyons encore à une situation plus dramatique au départ. Je suis député d'Obo. Je voudrais vous donner un exemple sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans ma circonscription, que le DIRCAP connaît très bien. À Obo, il y a, bien entendu, des écoles primaires, mais il y a aussi un lycée. Et au primaire, au fondamental 1, depuis plus de 10 ans, je dirais 20 ans, aucun enseignant n'a été affecté à Obo. Aucun. Jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où nous sommes en train de parler. Au lycée, aucun enseignant n'a été affecté depuis plus de 10 ans jusqu'à ce jour. Je suis allé au ministère de l'Éducation nationale. Depuis que j'ai été élu, je suis allé plusieurs fois au ministère de l'Éducation nationale signifier pour poser ce problème, pour essayer d'attirer l'attention sur cette situation. Mais alors là, rien jusqu'à aujourd'hui n'a été fait. Mais alors là, rien du tout. Dites-moi, des enfants qui sont sans enseignants. Parce que là, j'écoute le DIRCAP, il dit « les élèves sont sortis de classe ». Mais les élèves ne sont pas en classe. Les élèves sont dehors depuis. Les enfants sont dehors. Est-ce que sans enseignant, un enfant peut être en classe? Qu'est-ce qu'il va aller faire en classe? À Obo, logiquement, tous les enfants sont dehors. Ils ne sont pas en classe. Ils s'appuient sur un phénomène qui perdure depuis un certain temps, qui est le phénomène de maître par an. Qu'est-ce que ça signifie? Je voudrais bien que le DIRCAP nous explique ici ce qu'on appelle un maître par an. Qu'est-ce que ça signifie? Et où est la responsabilité du gouvernement dans la prise en charge des maîtres par an en question? Puisque la constitution sur laquelle le président Touadéra a prêté serment, en son article 9, dit ceci: l'État garantit à tout citoyen l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle. L'État garantit. Où est cette garantie que l'État accorde?
Donc, si je vous comprends, c'est ça là qui justifie aujourd'hui.
C'est ça qui justifie aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les élèves. L'effet déclic, c'est d'abord les enseignants vacataires qui sortent dans la rue pour demander la transparence.
J'en viens. Aujourd'hui, les enseignants vacataires, là encore, c'est un autre phénomène. C'est un autre phénomène parce que je crois savoir, et là, le DIRCAP va me démentir, je crois savoir que les enseignants, autant du fondamental 1 que du fondamental 2, accèdent à la formation par voie de concours. N'est-ce pas? Et lorsque on accède par voie de concours, il y a ce qu'on appelle la disponibilité de postes budgétaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas organiser un concours si on n'a pas la garantie que les gens qu'on va former vont être intégrés. C'est ça le principe d'organisation d'un concours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On organise des concours, on forme des instituteurs, on forme des enseignants, des professeurs de lycée et collège, et on les laisse dans la rue. Et ensuite, on dit qu'on va les prendre comme vacataires, comme contractuels. Et ça, en tout cas, de manière indéterminée. Quand un enseignant commence comme vacataire, il finit sa vie comme vacataire. Mais ce n'est pas possible. Bien. Et donc, en principe, ces enseignants-là, ils en ont marre, justement, de ce genre de traitement-là. J'ai suivi un enseignant qui est à Sibut, qu'on a interrogé, mais j'ai eu pitié de cet enseignant. Il a dit quoi? Il ne peut pas aller en classe, tout simplement, parce que le traitement qu'il reçoit, je ne sais pas combien de fois par an, ne lui permet même pas de s'acheter un savon, le savon, pour être propre. Alors qu'en classe, qu'est-ce qu'il enseigne à l'enfant? L'hygiène. Il demande à l'enfant d'être propre. Mais lui-même, il ne peut pas être propre tout simplement parce qu'il ne peut pas s'acheter du savon. Regardez le DIRCAP. Il est très bien habillé. Parce que justement, il a un salaire, il est bien traité, etc. Mais l'enseignant qui a permis qu'il soit ainsi est négligé aujourd'hui. Qu'est-ce que ce pays nous a fait pour qu'on puisse se comporter comme ça?
Ok. Nous allons vers vous, M. Alain Lumandé. Vous représentez ici l'association des parents d'élèves. Vous, au niveau de votre association, comment vous analysez cette situation et quelle est votre lecture du mécontentement des professeurs vacataires aujourd'hui?
Merci, Monsieur Kouina. Vous savez que l'association des parents d'élèves, les enseignants et les élèves et étudiants sont l'arbre de vie de la République centrafricaine. Ça forme une chaîne. Et si vous enlevez un maillon de cette chaîne, ça ne marchera pas. Donc, dès que nous avons appris que les professeurs vacataires étaient en grève, nous avons eu des contacts avec le DIRCAP qui est ici présent. Et ensuite, nous avons eu à échanger avec les professeurs vacataires. Ce qui ressort de cet échange, c'est quoi? C'est que les professeurs vacataires se plaignent d'abord, un, de retirer de leur diplôme. Ça, c'est la faute de l'administration de l'ENS. Parce que ils n'arrivent pas à retirer leur diplôme. Ils n'arrivent pas à retirer leur relevé de notes. Et ça cause problème. Ça, ce problème a commencé par là. Ensuite, ils ont déploré l'intégration qui ne recèpe pas la promotion, les promotions. Parce qu'on doit intégrer par promotion. Donc, cette promotion n'a pas été respectée. Et c'est qu'on a sauté d'autres promotions pour prendre certaines promotions, je crois, 2019 ou 2018, ce qui frustre les autres. Et ça, nous avons aussi déploré. Nous avons reconnu la légitimité de leur grève. Et nous avons demandé, nous sommes là pour faire la part des choses. Parce que si nos enfants restent encore à la maison, vous savez, voilà troisième année que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. les niveaux quand même à remonter. Nous assistons dans, aux examens, au baccalauréat, nous avons vu qu'il y a un progrès. Mais si cette année encore, si nous retombions dans cette situation, vraiment ce sera déplorable, ce sera catastrophique pour nos enfants. C'est pourquoi nous avons essayé de voir avec les autorités de l'éducation pour qu'une solution idoine soit trouvée à cette solution des professeurs vacataires. Nous ne pouvons pas tergiverser sur certaines choses, mais nous, nous sommes d'utilité publique et nous voulons que nos enfants puissent aller correctement à l'école. Nous sommes à 3 mois des examens, comme vous l'avez si bien dit. Mais qu'allons-nous faire si ces enseignants continuent à rester à la maison? Nous avons demandé au gouvernement de faire un effort et nous avons apprécié que les professeurs vacataires ont échangé avec le ministre de la fonction publique et qu'une solution est en train d'être trouvée. Donc c'est juste ça que je...
Ok, monsieur Karl Blaguet, vous êtes observateur de la vie politique en Centrafrique. Vous avez suivi le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation, l'honorable député de Obo, y compris le représentant de le FENAPEC. Quelle est votre lecture de la situation? Est-ce que les revendications portées par les professeurs vacataires sont aujourd'hui légitimes pour que les élèves puissent aussi les suivre dans leur démarche?
Merci, monsieur Jean-Fernand Kouena. Après avoir écouté mes 3 co-débatteurs, à commencer par le DIRCAB, et après ce décor qui a été si bien planté, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il y a crise. Qu'il y a crise, ces revendications sont légitimes. Parce que ces revendications touchent, comme l'a si bien dit l'honorable Musedio, à l'article 9 de la Constitution, qui confère le droit à tout Centrafricain d'accéder à l'éducation. Maintenant, ça dépend de quel angle, sous quel angle chacun peut justement apprécier cette crise. D'autres l'apprécieront sous un angle politique, mais moi, je l'apprécierais sous un angle social. Et je dirais que ces revendications sont purement légitimes. Donc, il n'y a pas de propagande. C'est vrai, la manière avec laquelle chacun a donné son opinion depuis une semaine, notamment depuis la dernière grève, là. Et la solidarité, moi, je n'appellerais pas ça une grève, mais la solidarité des élèves vis-à-vis des professeurs qui n'étaient pas dans les salles de cours. Justement, cette absence jouait sur les élèves. Parce que ce qu'on appelle volume horaire, au niveau des volumes horaires, et surtout à 3 mois des examens de fin d'année, je pense qu'il y aura beaucoup de cas d'échec à certains examens. Il ne faudrait pas que le gouvernement puisse s'étonner. De 2, il y a eu un cadre permanent de concertation, d'après le secrétaire général de l'Association nationale des parents d'élèves. Est-ce qu'à l'intérieur de ce cadre permanent de concertation, c'est-à-dire enseignants-gouvernement, il y a eu un consensus? Est-ce qu'un communiqué conjoint a été dégagé? Parce que moi, en tant que Centrafricain, je n'ai pas encore... eu écho justement d'un communiqué conjoint où un consensus a été dégagé qui prouve que justement il y a un début de résolution de cette crise. À l'heure où nous débattons actuellement, je pense que les enseignants sont encore à la maison, y compris les élèves. Donc je me pose cette question. S'il y a eu concertation, mais quels ont été les débouchés de cette concertation?
Ok, revenons vers vous, Dirkab. La situation de droit... C'est le travail du ministère de la fonction publique de faire ce travail d'intégration. Maintenant, comme on a ramené au niveau de la primature pour faire ce travail, à qui incombe la responsabilité de cette incompréhension qui pousse aujourd'hui les professeurs vacataires dans la rue et aussi les élèves à les suivre?
Je vous remercie pour ce point de vue. J'entends un nouveau mot que vous venez de prononcer, l'incompréhension. Je pense que c'est un mot qui a sa place dans ce débat et qui contraste avec l'idée selon laquelle le gouvernement serait, les vacataires, les contractuels seraient en train d'avancer une parfaite opposition par rapport à l'arrêté qui a été pris par son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique. Vous évoquez le contexte dans lequel cet arrêté a été pris. C'est pour des questions de transparence que le chef du gouvernement a mis en place une commission qui intègre en particulier le ministère de la fonction publique et qui intègre également les candidats à l'intégration. Je pense que c'est une démarche de transparence qui convient d'être notée à sa juste valeur. Et l'arrêté qui a été signé, certains l'ont qualifié d'arrêté muet, d'autres ont dit qu'il y a non-respect des principes de promotion. Tout cela, c'est l'incompréhension que vous évoquez. Si aujourd'hui nous avons un cadre permanent de concertation et de négociations auxquelles les vacataires ont accepté de participer, je pense qu'il faudra laisser un peu de temps aux discussions qui se déroulent au sein de ce cadre pour espérer obtenir très rapidement un communiqué final un dénouement de la crise. Et je reste très optimiste que dans les tout prochains jours, les discussions en cours pourraient nous aider à parvenir à un dénouement de cette crise pour permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école. Je tiens également à préciser une chose, c'est que nous devons prendre de la hauteur dans cette discussion. Nous devons surmonter le local et passer au global. Nous ne devons pas voir une circonscription, les élèves appartenant à une circonscription, mais nous devons voir les élèves de notre pays d'une manière générale et éviter surtout de particulariser la discussion. On me parle ici de 10 ans pendant lesquels certains élèves n'ont pas eu à voir devant eux des enseignants. On me parle également de 4 ans. Le ministre, porte-parole du gouvernement, avait évoqué dans son communiqué que nous avons suivi ces derniers jours sur les ondes de la radio nationale que bien avant les 4 ans que son excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, a passé au pouvoir, il n'y avait pas d'intégration dans la fonction publique et le porte-parole du gouvernement a parfaitement raison. Qui nous dira le contraire ici? Ces dernières années, nous avons constaté avec satisfaction, même si cela n'est pas optimal, nous avons constaté, nous avons noté de façon positive cette campagne continue d'intégration dans la fonction publique dans un contexte financier particulièrement difficile que traverse notre pays. Et je tiens également à préciser que la question des maîtres parents n'est pas une question à évoquer avec légèreté. C'est une question qui occupe une place centrale au niveau de la politique, disons dans le domaine de l'éducation nationale. J'ai évoqué tout à l'heure parmi les grandes interventions au cours au sein du système éducatif qu'il y a le projet d'urgence de soutien à l'éducation de base. Ce projet s'adresse dans sa deuxième composante à la question enseignante. Cette rubrique, la question des maîtres parents est évoquée. Nous devons aborder cette question donc avec beaucoup de prudence en se disant que les maîtres parents sont ceux-là qui, à un moment donné, lorsque notre système éducatif était affecté par la crise que notre pays a vécue, ont eu à apporter, dans la mesure du possible, leur contribution à la poursuite de notre système éducatif. Et aujourd'hui, dans le cadre du projet d'urgence de soutien à l'éducation de base, on a visé de pouvoir faire une étude élaborée du profil des maîtres parents. Vous vous rendez compte que parmi les maîtres parents, tous n'ont pas ce niveau rabais que certains ont l'habitude de leur donner. Il y a des diplômés parmi ce qu'on appelle des maîtres parents et qui ont une certaine base de formation et qu'on peut mettre en valeur très rapidement pour leur permettre de pouvoir assurer un service éducatif convenable.
Monsieur le directeur,
je tiens à préciser également que cette crise est une crise qu'il faut différencier. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la crise née des revendications des vacataires et il y a la crise née des revendications des contractuels. Les revendications qui sont parvenues au niveau du ministère de l'Éducation nationale, je tiens à préciser, et c'est sur ça que nous devons axer notre discussion, ce sont des revendications qui sont basées d'abord sur le quota d'intégration qu'ils estiment faible et non pas en mesure de répondre à la demande d'intégration de masse qui a été exprimée. Ça, c'est un premier point. Il y a également la question d'arrêter portant contractualisation des enseignants. Il y a également la question de paiement en retard des contractuels. Il y a bien entendu cette question qui a été évoquée tout à l'heure d'incompréhension par rapport à l'arrêté qui aurait été qualifié d'arrêté muet de façon peut-être un peu prématurée parce qu'on ne s'est pas encore concerté très suffisamment. Mais je tiens à préciser que la question de retrait de diplôme qui a été évoquée tout à l'heure est une question qui n'a pas été portée à la connaissance du ministère de l'Éducation nationale, parce que je me souviens les documents qui sont parvenus de la part des enseignants qui sont en colère ne mentionnent pas cet aspect-là. Bien entendu, nous pouvons faire attention à cela pour voir dans quelle mesure répondre à la question si elle se pose en réalité.
Monsieur le directeur de cabinet,
une bonne nouvelle, et je finis là, du représentant de l'association des parents d'élèves, c'est que les examens se déroulent dans d'excellentes conditions depuis ces 3-4 dernières années. Et il espère, et je partage son opinion, que cette situation devra se conforter davantage dans les temps à venir. Je comprends l'inquiétude du député, je comprends l'inquiétude de l'observateur de la vie civile, que la crise en cours actuelle puisse impacter sur le calendrier scolaire. Il faut d'abord évaluer la situation et le ministère de l'Éducation nationale au travers de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, au travers de la Direction générale de l'enseignement fondamental, secondaire, général et du partenariat est à pied d'œuvre pour évaluer de façon précise et voir dans quelle mesure. Et nous saluons la compréhension qui est en train de naître dans le cadre permanent de concertation et de négociation desquelles nous espérons qu'un dénouement de la crise.
Monsieur le directeur de cabinet, au-delà de votre développement, nous avons envie de vous poser cette question. Vous avez évoqué la question de la transparence qui entoure le processus d'intégration, mais quand vous écoutez le président de l'Assemblée nationale, engagé le Premier ministre à faire de ce dossier un sujet de transparence. En quoi cela vous inspire?
Ouais, l'appel de l'honorable président de l'Assemblée nationale a été bien écouté. Vous avez suivi que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné des instructions pour que, en échange avec les enseignants en colère dans le cadre permanent de concertation et de négociation, et ils ont accepté d'intégrer ce cadre. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que toutes les préoccupations qui ont été évoquées ici et là pourraient être abordées de façon beaucoup plus élaborée et nous permettre de répondre, je l'espère, de façon très positive à l'honorable président de l'Assemblée nationale qui est très préoccupé, on le sait, par les questions éducatives dans notre pays. Donnons la chance aux discussions qui sont en cours au sein du cadre permanent de concertation et de négociation. Soyons optimistes. Retenons qu'il y a une évolution même pendant ces derniers temps. Vous avez parlé tout à l'heure de répression policière. Je vous ai apporté la preuve du contraire et signifié que les enseignants en question ont été retenus juste pour des questions d'enquête et ils ont déjà été libérés. Je sais également que les discussions que nous avons obtenues dans les toutes dernières heures avec les enseignants nous laissent très optimistes.
Okay.
Voilà ce que je peux vous répondre par rapport à votre pessimiste qui est plutôt.
Nous ne le sommes pas pessimistes. Nous parlons des sujets qui engagent la vie de la République. Ce n'est pas question de pessimiste ni d'optimiste, mais ce sont des faits qui préoccupent aujourd'hui le Centrafricain pour lesquels nous voulons avoir la précision du gouvernement et même des observateurs et des composantes de la société autour de la question. L'honorable député, vous avez suivi M. Ernest Mada sur cette question. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Je vous remercie. En fait, les propos du DIRCAB me font encore comprendre que le ministère de l'Éducation nationale sous-estime un tout petit peu ce qui est en train de se passer, ou alors le problème de l'éducation dans ce pays. Parce que lorsque le DIRCAB dit la supposée baisse de niveau, alors que la baisse de niveau est tout à fait réelle, ça m'inquiète un peu. Bon, qu'à cela ne tienne. Tout à l'heure, j'ai pris le cas de la circonscription d'Obo, disons de la sous-préfecture d'Obo. Je n'ai pas pris cet exemple parce que c'est une circonscription. J'ai pris ça parce que c'est un exemple de ce qui se passe dans ce pays. C'est un exemple. C'est par l'exemple, justement, c'est en partant de ce cas particulier qu'on peut comprendre ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il veut qu'on globalise. Ok, mais partons des cas que nous connaissons. C'est un cas que je connais. Et qu'il connaît également. Puisque je suis déjà...
nous apportons des éléments de réponse, soyons honnêtes.
Il n'y a pas de réponse jusqu'à ce jour. Je suis désolé.
Nous nous sommes entretenus.
Il n'y a pas de réponse jusqu'aujourd'hui à ce problème. Ce que vous êtes en train de dire, vous dites que vous êtes en train d'apporter des solutions. Je vais vous rappeler que c'est la réponse qu'on me donne depuis 3 ans. C'est la réponse qu'on me donne depuis 3 ans qu'on est en train d'apporter des solutions aux problèmes d'enseignants
à Obo. En campagne électorale.
Non, je ne.
Vous focalisez sur votre circonscription.
Est-ce qu'on est venu ici pour une campagne électorale? Mais voilà.
Donnons de la hauteur à cette discussion qui concerne les enfants centrafricains.
C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Sauf si vous me dites que les enfants qui sont dans cette partie du pays ne sont pas centrafricains.
Vous ne suivez pas le développement de
ce
l'actualité éducative.
Ce sont des centrafricains
nous
également.
Nous avons envoyé des enseignants dans l'inspection d'académie du Sud-Est. Si vous ne suivez pas les informations, voilà l'information que je vous apporte suite à la récente vague d'intégration de la
Je suis
publique.
Désolé.
Vous m'avez contacté. Nous avons beaucoup échangé sur cette question.
Je vous ai apporté
des éléments de réponse.
Je suis
et
désolé.
Vous avez également dit qu'il y a de cela plus de 10 ans.
Je ne sais pas si vous mettez sur la défensive, mais nous sommes ici pour échanger. Pourquoi vous mettez sur la défensive? Si vous mettez sur la défensive, c'est parce que justement vous savez que votre système là.
Parce que vous dites des incongruités.
Non. Votre système là a des failles que vous connaissez.
Vous êtes en campagne, honorable député.
Est-ce qu'il y a des électeurs ici?
Mais vous vous adressez au travers de la radio à des électeurs.
C'est vous qui avez commencé par parler de campagne. Laissez-moi donc faire mon développement. Vous avez parlé ici, personne ne vous a arrêté. Pourquoi vous êtes sur la défensive? Pourquoi êtes-vous sur la défensive? Vous savez bien que ce que vous développez depuis toujours, le fait d'envoyer des enseignants dans des inspections d'académie, vous savez que ce n'est pas efficace.
C'est
vous
de
le
la
savez.
Décentralisation.
Vous avez essayé, est-ce que vous avez essayé d'y remédier. Quand un système ne marche pas,
vous oubliez le projet de
quand loi portant décentralisation. Quand un système ne marche pas, on y apporte une solution. Et ça, ça ne marche pas. Bien. Alors, donc, appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Dites, c'est de la campagne, c'est de la propagande, etc. Dites, appelez ça comme vous voulez. Mais toujours est-il que nous sommes en train de dire que des enfants, des centrafricains, ne reçoivent pas le droit qu'ils ont, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Voilà le véritable problème. Et si vous me le reprochez, vous me reprochez le fait de parler de ma circonscription, mais vous faites bien, parce que dans tous les cas, j'ai été élu pour défendre le droit de ces gens-là, de ces centrafricains-là. C'est pour ça que je suis élu. Reprochez-le, moi, mais je crois que vous avez raison de me le reprocher.
Vous êtes député de la nation, n'est-ce pas?
Et il s'agit bien d'une partie de la nation, monsieur le DIRCAP.
Ok.
Bien. Alors, donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où les enseignants se retrouvent dans la rue, les élèves se retrouvent dans la rue, c'était prévisible. C'était prévisible. Je vais vous dire que c'est... Oui, c'était prévisible. Cela dénote de l'incapacité, justement, du ministère de l'Éducation nationale de tenir, de tenir le bon bout. Pourquoi je dis ça? Je voudrais poser une seule question au DIRCAP. Où sont passés les enseignants qui sont régulièrement intégrés? Où sont-ils passés? Puisqu'on ne les retrouve pas dans des établissements publics. Où sont-ils? Où sont-ils? Qu'ils nous disent où ils sont passés. Puisqu'on ne retrouve plus d'enseignants dans les salles de classe. Nous avons des maîtres parents. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué la situation des maîtres parents, il fait bien féliciter ces maîtres parents qui ont essayé de sauver la situation. N'eût été la présence des maîtres parents dans les salles de classe, le système éducatif en République centrafricaine aurait purement et simplement disparu. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure et à laquelle le DIRCAP n'a pas répondu, qui prend en charge les maîtres parents? Qui prend en charge les maîtres parents? Ce sont des parents. Et puisque ce sont des parents, ça permet à l'éducation nationale, ça permet au gouvernement de se croiser tranquillement les bras et regarder. C'est-à-dire les parents se démêlent comme des beaux diables pour essayer d'éduquer leurs enfants, pour essayer de trouver des enseignants, je ne sais pas, comme ils peuvent, au quartier, au village, etc., pour la formation de leurs enfants. Pendant ce temps, la responsabilité, ou qu'est-ce que le gouvernement fait de sa responsabilité régalienne de l'éducation de nos enfants? Puisque là maintenant, l'enseignement dans les établissements publics, où sont passés les enseignants régulièrement affectés? Nous, en tout cas, je suis obligé de revenir encore sur la situation d'Obo. En tout cas, là-bas, on ne voit aucun enseignant régulièrement affecté, payé sur le budget, qui émarge sur le budget de l'État. Où sont-ils passés?
Ok, nous allons poser la question à monsieur le représentant ici de la FENAPEC. Vous, au niveau de la FENAPEC, avec plus d'un mois, est-ce que les enfants peuvent bénéficier ou d'un prolongement de calendrier pour leur permettre de compenser un peu le temps qu'ils ont passé à la maison sans faire cours?
Bon, mais sur ce point, je ne suis pas technicien. Ça revient au ministère de l'Éducation d'arranger ce décalage. Nous, les parents, nous sommes inquiets de l'avenir de nos enfants. Nous ne voudrions que nos enfants puissent reprendre l'école. Nous ne voulons que le gouvernement et le collectif des enseignants puissent s'entendre pour qu'ils reprennent rapidement les bancs de l'école pour que nos enfants puissent continuer à apprendre, puisque nous approchons des examens. C'est pourquoi nous allons de deux côtés. Nous allons vers les enseignants, nous allons vers le département ou bien les autorités éducatives pour qu'ils s'entendent le plus tôt, le plus rapidement possible pour que les enfants reprennent les cours. Puisque les enfants, quand ils restent tellement à la maison, ils perdent le fil de cours qu'ils ont pris. Je reviendrai sur les maîtres et parents que vient d'évoquer le député. Les maîtres et parents, ce sont nous les parents qui avons vu que nos enfants
à un moment donné, n'avait resté à la maison sans rien. Et nous avons pris nos responsabilités pour prendre des jeunes.
Mais le phénomène devient presque institutionnel maintenant.
Ben institutionnel, je crois qu'avec les autorités, on est en train de voir, même avec l'UNICEF, on est en train de voir ceux qui ont le niveau. Il y a des gens qui ont le niveau et qui enseignent bien. Et ceux-là, ils seront reformés et on va les formaliser. Mais ceux qui n'ont pas le niveau, on va les... il y a une procédure qui est en train de se faire. Je crois que le DICAB est bien placé pour le faire. Avec l'UNICEF, nous sommes dans cet échange-là. Donc, les maîtres et parents ont rendu beaucoup de services et sur leur émolument, je crois que c'est les associations des bases qui leur donnent quelque chose pour qu'eux, ils vivent avec ça. Donc, je peux répondre comme ça pour ça. Mais pour l'instant, c'est que nous souhaiterions à ce que le collectif des enseignants, c'est-à-dire les vacataires, les professeurs vacataires et les contractuels puissent reprendre, aller dans les établissements publics. Là. Les contractuels sont nombreux hein, et les écoles sont fermées. Les enfants sont restés. Là, il y a des enfants qui sont dans la cour. Et c'est pénible quand tu vois tes enfants qui vont à l'école et ne font rien, ne font que jouer au ballon, ne font que faire quoi là, les filles font autre chose. Donc nous ne pouvons que souhaiter au gouvernement et aux deux parties de s'entendre le plus tôt possible que chacun mette un peu de l'eau dans son vin pour que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école.
Ok, monsieur Karl Blaguet, en suivant le développement de vos trois co-débatteurs ici, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'amélioration du système éducatif pour qu'il y ait un cadre cohérent permettant le développement et des professeurs, du personnel enseignant et des élèves pour qu'il y ait un renforcement de niveau éducatif en Centrafrique?
Merci, monsieur Kouena. Je pense que dans ce pays, il y a eu beaucoup d'états généraux de l'éducation. Je pense qu'il y en a eu au moins 2 ou 3. Il y a eu des recommandations, il y a eu des alternatives proposées. Je pense que ça doit se trouver dans certains tiroirs au département de l'éducation nationale. Sauf erreur de ma part. Hein. Mais il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Pourquoi les pouvoirs politiques qui se succèdent ne profitent pas justement de ces recommandations-là, qui peuvent leur servir d'aiguillon? De deux, il y a une question qui m'a laissé perplexe, posée par l'honorable Musedio, qui a dit: où sont passés les enseignants régulièrement intégrés? La question est sortie, mais il n'y a pas eu de réponse. Donc ça signifie qu'il n'y a que des enseignants vacataires qui servent les établissements publics, mais les enseignants régulièrement intégrés vont où? Ils sont dans le privé? J'aimerais justement une réponse justement à cette question. Parce que c'est extrêmement grave si des enseignants régulièrement intégrés n'enseignent pas dans les établissements publics. Donc pour revenir justement à votre question, je pense... il y a une crise dans le secteur de l'éducation nationale. J'ai parlé d'états généraux de l'éducation nationale. Chacun essaie de tirer le drap de son côté. Je pense que le directeur de cabinet qui représente le département fait bien de dire ce qu'il dit. Effectivement, il y a crise. Moi, en tant qu'observateur, et récemment lors des derniers événements où la police était obligée de réagir, à travers les médias, on a entendu le micro à un des professeurs, des enseignants vacataires, qui a dit que non, parmi ceux qui sont dans la rue, il y a certains noms qu'il a vus dans un arrêté. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi le Premier ministre, justement, a court-circuité l'intégration globale et a sorti un arrêté discret pour intégrer certains? Je pense que ceux qui ont écouté les médias ont dû constater cela. Alors, comme le directeur de cabinet, là, j'aimerais qu'il nous fasse un peu donner un éclaircissement, justement, à ce sujet, parce que ce serait extrêmement grave s'il y a des intégrations parallèles alors qu'il y a eu une demande en fonction du quota, une demande d'intégration en masse. Est-ce qu'il y a une discrimination dans le processus d'intégration? Est-ce qu'il y a une opacité? Parce que, à écouter le président de l'Assemblée nationale demander au Premier ministre de faire la transparence, qui est transparence dans le processus d'intégration, ça signifie qu'il y a un couac. Donc voilà autant de questions que je me pose, monsieur Kouena.
Nous tendons vers la fin de notre émission. Dernier tour de table. Monsieur le directeur du cabinet, vous avez été interpellé par l'honorable Musedio ici. Vos réponses?
Merci. Je pense qu'il y a besoin d'actualiser les... J'entends ici parler de l'aspect prévisible de cette crise. Je pense que c'est une affirmation suffisamment grave que l'honorable député est en train de porter ici, à notre connaissance. Il savait que les enseignants devaient se mettre en grève. Je pense que c'est quand même inquiétant de, de tenir de tels propos. Ce que je sais, les enseignants sont parfaitement libres de poser les revendications qu'ils ont eu à poser. Mais quand on me dit ici que c'était une situation prévisible, je me demande si ce n'est pas un aveu auquel on est en train de passer. Cela étant, je pense qu'au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale, nous avons une parfaite maîtrise des défis auxquels notre système d'éducation et de formation se confronte. On me parle ici des résolutions, des conclusions des états généraux de l'éducation nationale. Moi, je parle d'une situation beaucoup plus nouvelle. Je parle du plan sectoriel de l'éducation nationale qui va régir notre système éducatif durant les 10 années à venir. C'est de l'actualité. Et de l'actualité qui intègre les études antérieures qui ont été faites, qui intègre également le rapport d'état du système éducatif auquel nous avons procédé tout récemment, qui intègre l'évolution, la parution régulière de notre annuaire statistique. Les questions éducatives ne s'abordent pas par des gens qui ne sont pas préparés, par des non-initiés. C'est une science et on l'aborde telle qu'elle se présente. Non pas avec des outils rudimentaires, non pas avec de l'informel, mais on l'aborde de façon sérieuse, de façon professionnelle, de façon pédagogique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et je tiens à vous donner des chiffres. Nous avons eu le taux d'achèvement du primaire, qui était bien avant 4 ans au-dessous de 50%, à plus de 60%. Excusez si je ne rentre pas dans les détails pour donner des définitions précises de ce que c'est que le taux d'achèvement du primaire. Je sais également que le taux de parité filles et garçons a évolué. C'est une très 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 bonne chose. Je tiens à préciser que l'effectif des enseignants dont nous disposons aujourd'hui avoisine 12 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Bien entendu qu'il faut différencier. Où sont passés ces enseignants? C'est vrai qu'il y avait un problème de gestion des effectifs qui a prévalu pendant très longtemps, comme la plupart d'autres problèmes, d'autres questions auxquelles le système éducatif est confronté. Mais je sais que durant les 4 dernières années, il y a eu une stratégie de contrôle des effectifs des enseignants qui a permis d'obtenir des salaires qui sont parfaitement justifiés. L'écart se réduit progressivement et nous nous félicitons en tout cas de l'évolution de cette manière de gérer le personnel enseignant. Nous le savons, et le député le sait beaucoup plus que nous, qu'il y a un projet actuellement, si cela n'est pas encore suffisamment avancé, qui porte sur la décentralisation. Et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants sont affectés au niveau des inspections d'académie. Nous en avons 8 dans notre pays. Et puisque l'habitude, c'est de parler localement, je tiens à préciser que des enseignants sont envoyés en particulier dans l'inspection d'académie du Sud-Est, qui regroupe la Basse-Côte, le Mbomou et le Mbomou. Et c'est à l'inspecteur d'académie qui se trouve au niveau de Bangassou de redistribuer ses enseignants dans les différentes circonscriptions scolaires, dans les différents secteurs scolaires qui régissent de ses compétences. Nous savons également que parmi les interventions très importantes en cours, il y en a une qui concerne le statut du maître parent. Cette intervention est contenue dans le projet d'urgence de soutien à l'éducation de base, mais également dans le plan sectoriel de l'éducation auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Il y a un volet qui permet de pouvoir traiter la question des maîtres parents, qui est une question très 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 délicate. Vous savez que l'effectif des maîtres parents...
Donc le gouvernement veut formaliser les maîtres parents.
J'en viens. Il y a eu une étude qui a été faite dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation et vous savez que c'était un phénomène qui était suffisamment immense. Et nous ne pouvons pas de façon brutale éliminer ce phénomène. Cela a déjà à se faire. L'étude qui se rapporte à cette question dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation, nous ne pourrons que procéder de façon dégressive à l'élimination de ce phénomène et avec des moyens appropriés, en faisant attention au fait que nous devons approvisionner nos écoles en personnel enseignant tout en étant extrêmement prudents. Je comprends que les parents, à un moment donné, bien avant 4 ans, ont eu à supporter cette charge. Mais cette situation est en train de changer et c'est ça la bonne nouvelle que nous apportons aux parents qui ont eu à supporter cette charge pendant un certain temps. Le plan sectoriel de l'éducation trouve une solution à ce problème et de façon dégressive. Nous avons une simulation, des études affinées qui ont été faites par rapport à la question et nous sommes optimistes qu'au terme des 10 ans du plan sectoriel de l'éducation, ce phénomène sera réduit de façon très importante. Et je termine par là, en disant, vous avez insisté sur la question d'arrêter muet. Mais je l'ai précisé tout à l'heure, c'est de l'incompréhension. Et le cadre permanent de concertation et de négociation permettra de donner une réponse beaucoup plus précise à cette question et de répondre à toutes les interrogations qui sont posées ici et là. Okay. Donc, donnons une chance extrêmement optimiste pour la reprise des enseignements.
Ok. L'honorable député, vous avez suivi votre dernier mot pour qu'on arrive à la fin de cette émission.
Je vous remercie. Je suis heureux d'entendre le DIRCAP dire qu'il y a au niveau du ministère de l'Éducation nationale un problème de gestion des effectifs. Effectivement, il y a un véritable problème de gestion des effectifs. Mais lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait, que c'était prévisible que les enseignants se mettent dans la rue, et si le DIRCAP me dit qu'il ne l'avait pas prévu, c'est qu'il est imprudent. Parce qu'en fait, lorsque vous traitez les enseignants comme ils sont traités, lorsque les élèves n'ont pas d'enseignants dans les salles de classe, lorsque les intégrations ne se font pas convenablement, lorsque quelqu'un qui a été formé il y a 10 ans, il n'est pas intégré, vous vous attendez à quoi? Ben, le seul droit qu'il a pour manifester, pour poser son problème, enfin, du moins pour l'exposer, c'est se mettre en grève. C'est un droit. C'est pas un crime, c'est un droit. Je vous le rappelle. L'article 12 de la Constitution confère aux gens, aux citoyens qui sont lésés de se mettre en grève pour exprimer leurs revendications. Et ça, c'était prévisible, étant donné qu'il y a des enseignants qui se sentent lésés. Et si vous dites que vous n'êtes pas au courant, mais c'est très grave. Si vous dites que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des enseignants contractuels qui sont lésés, mais c'est très grave. Nous comprenons donc pourquoi le pays fonctionne comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, donc, je comprendrai donc par là que il n'y a pas de prévision, on évolue comme ça, ainsi de suite. Non, monsieur le DIRCAP, il faudrait qu'on... Vous avez dit que ce débat est très sérieux. Je suis d'accord avec vous. C'est un débat très sérieux. Donc, n'avancez pas des propos déplacés, fallacieux, inutilement. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Et vous savez que moi, je ne suis pas responsable de ça. Vous le savez. Vous savez que ces enseignants-là ont bien le droit, ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de revendiquer. Parce que ce qui s'est passé là, ce que vous appelez l'intégration là, ça ne s'est pas passé comme il faut. Ils se sentent lésés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre que de manifester leur mécontentement par le droit de grève? Ça, c'était prévisible. C'était prévisible. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant, ce que vous comptez faire pour mettre fin à ça, pour mettre fin à ce qui est en train de se passer, pour rassurer les enseignants, pour rassurer les parents, pour rassurer nos enfants, c'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Vous savez, de l'éducation du peuple dépend le destin d'un pays. Vous le savez. Et donc là, vous avez la destinée même du pays entre les mains. Vous êtes en train de jouer avec. Parce que quand je vous entends, vous êtes en train de sous-estimer la situation. En principe, c'est à vous de prendre la situation vraiment à bras le corps pour mettre fin à cette déliquescence du système éducatif.
Vous savez que c'est ce que font les pouvoirs publics?
Okay. Non, je ne le sais pas, puisque on ne voit pas les résultats de ce que vous dites que vous faites là. On ne voit pas.
Renseignez-vous.
Okay,
on n'a pas besoin de se renseigner. Il faut qu'on voie les résultats.
Merci l'honorable. Merci l'honorable.
Le Centrafricain Lambda.
Vous craignez ne pas être réélu?
Le Centrafricain Lambda, je ne sais pas pourquoi. Vous voulez être candidat? Je peux vous aider à gagner les élections. Légitime. Parce que ce n'est pas de ça que je suis venu parler ici. Je n'ai pas besoin de cette antenne pour gagner les élections chez moi. Et c'est la deuxième fois que je gagne les élections.
Mais tenez un départ dépassionné.
Je vous prie de nous respecter les uns les autres.
Je ne sais pas si vous voulez vraiment qu'on parle des élections ici, mais ce n'est pas de ça que nous sommes venus parler. Je vous en prie.
Ce n'est pas le sujet.
Le sujet est très sérieux. Le sujet dont on débat ici est très sérieux. Il s'agit de l'éducation des enfants. Il s'agit de l'éducation. Vous savez, après le pain, ce qu'il y a d'important à un être humain, c'est son éducation. C'est l'éducation. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Nous ne parlons pas de campagne. Vous ne faites que dire ça depuis le début. Mais je vais vous dire, si vraiment c'est une préoccupation pour vous, je suis désolé, ce n'est pas encore une préoccupation pour moi. Ce qui me préoccupe en ce moment, c'est que les enfants sont dans la rue. Si ça, là, ça ne vous préoccupe pas, et que ce qui vous préoccupe, c'est la campagne, ce sont les élections qui s'approchent, je vois pourquoi vous ne prenez pas à bras le corps ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vois pourquoi les enseignants sont dans la rue et vous les condamnez. C'est dommage.
Ok. Monsieur représentant de FENAP, de la FENAPEC, votre dernier mot pour qu'on arrive à la fin de notre émission.
Pour nous les parents, hein, notre préoccupation principale, c'est la reprise des cours. Nous souhaiterions que les deux parties puissent s'entendre très rapidement pour que nos enfants reprennent les cours. Vous savez, monsieur le journaliste, que les enfants ont déjà commencé à s'inscrire aux différents examens. Je crois que nous tendons même à la fin des inscriptions. Donc, maintenant, aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que les enseignants puissent se reprendre et que nos enfants reprennent les cours. Et je demanderai à nos enfants de rester tranquilles, de ne pas manifester n'importe comment dans la rue pour que eux, ils se mettent en faux. Donc, je souhaiterais à ce que cet échange que le gouvernement et les collectifs des enseignants sont en train de faire puisse aboutir très rapidement pour que les cours reprennent, pour que les examens puissent se dérouler dans de bonnes conditions comme les deux dernières années que nous avons pu passer et que le taux de réussite puisse encore augmenter. Parce que de 2018 à 2019, nous avons eu quand même un taux appréciable. Et si cette année, nous retombons encore plus bas, je crois que ce sera très malheureux pour nous les parents.
Ok. Monsieur Karl Blaguer, en deux mots pour votre mot de fin.
Tout simplement, Monsieur Koena, que les discussions dans le cadre permanent de concertation et de négociation se passent bien et qu'il y ait justement un respect des calendriers des examens de fin d'année et que cette situation qui a prévalu la semaine dernière sert de jurisprudence pour qu'à l'avenir, que les pouvoirs publics évitent qu'il y ait l'opacité dans le processus d'intégration et que le Parlement puisse se saisir justement de cette situation.
C'est sur ce mot que s'achève notre émission consacrée aux remous sociaux nés de la dernière intégration dans la fonction publique et leurs conséquences sur l'éducation. Pour débattre de cette question, nous avons reçu M. Ernest Mada, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. M. Ernest Mada, merci d'être passé.
C'est moi qui vous remercie.
Nous avons reçu Honorable Misedio, député de Obo et membre de la commission éducation à l'Assemblée nationale. Il représente ici l'URCA. Monsieur Ernest Misedio, merci d'être passé.
Je vous remercie.
Nous avons aussi reçu Monsieur Alain Lumandé qui représente ici la Fédération nationale des parents d'élèves. Monsieur Alain Lumandé, merci.
Je vous remercie.
Aussi Monsieur Karl Blaguer, merci de votre participation à ce débat.
Merci Monsieur Koena.
Émission Patara, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. J'ai bénéficié de la complicité technique de Gianni Stéphanie Bokula.